Bien le bonjour à chacun, chacune. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour ensemble partager un petit bout de l'Évangile avec vous, une section qui m'a interpellé ces derniers temps. Alors vous avez les salutations de Nathalie, comme ça a été dit, qui est à Colonie. Puis moi je viens en femme de pasteur vous présenter quelques mots de l'Évangile avec vous, qu'on puisse partager un texte de l'Évangile. Donc on est dans une thématique en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça change, la thématique du changement, et on va ensemble continuer dans cette thématique, cette fois-ci non pas avec un texte de l'Ancien Testament, comme j'ai souvent l'habitude de le faire avec vous, mais avec un texte du Nouveau Testament, mais vous inquiétez pas, il y aura des liens avec l'Ancien Testament, parce que si j'ai regardé ce texte, c'est parce qu'il me semblait voir des liens avec l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas. Resplendis pour que le monde voit. Eh bien, c'est un petit peu ça dont il va être question ce matin. C'est le récit d'un homme dont la vie a été complètement changée du jour au lendemain. Un homme qui était aveugle de naissance et qui, d'un seul coup, voit, parce que Jésus le voit. Alors, je vous propose d'ouvrir votre Bible à l'Évangile de Jean et au chapitre 9. Et nous lirons ensemble les versets 1 au verset 12. Jean 9, versets 1 à 12. Jésus voit un aveugle né et ça change tout. Je vous proposerai un menu en trois temps. En entrée, on va rechercher la cause. En deuxième, en plat de résistance, on va découvrir le but. Et en dessert, on vivra le moyen ensemble. Jésus, donc Jean 9, versets 1 à 12, je lirai dans la version second, Jésus, c'est à moi de... Si tu peux peut-être passer pour la lecture du texte biblique, ça m'arrangerait, merci. Vous y êtes, Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait, probablement devant le temple ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi. » Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé. Je me suis lavé. J'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alors ainsi, ça s'achève notre lecture, mais on pourrait lire tout Jean 9 et la fin du récit de la guérison de l'aveugle-né. Alors je vais rapidement vous résumer la suite. Tout d'abord, on apprend que ce miracle a lieu un jour de sabbat. Un miracle un jour de sabbat, pour certains, ça va poser problème, notamment pour les pharisiens. Les voisins de l'aveugle l'amènent devant les pharisiens, mais personne ne croit qu'il était aveugle auparavant. C'est alors qu'on interroge ses parents. C'est un véritable interrogatoire. Jean 9, c'est un véritable procès qui va se mener là. On interroge ses parents, les parents de l'aveugle-né, et ces derniers répondent qu'ils ne savent pas comment il a été guéri, et disent, verset 21, « Interrogez-le lui-même, il a de l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Ses parents, verset 22, disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alors les pharisiens appellent le miraculé une seconde fois pour l'interroger afin de faire porter la faute sur Jésus, cette fois-ci. L'aveugle-né reconnaît que c'est Jésus, c'est bien Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est alors au verset 39, et c'est comme ça que se conclut notre chapitre, je lirai les versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, véritable procès, je vous le disais, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Alors un passage bien énigmatique sur lequel peut-être vous avez déjà entendu prêcher et qui, moi, m'a interrogé pendant ces trois derniers mois. Donc c'est pour vous dire si ça m'a vraiment interrogé et j'espère ne pas déborder trop ce matin parce que j'ai des choses à dire sur ce passage, mais j'essaierai de couper un maximum. Rechercher la cause, c'est le premier axe que je vous propose de considérer ensemble, rechercher la cause. Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Alors la question des disciples ne naît pas de nulle part. Elle pourrait nous paraître étrange, mais elle n'est pas de nulle part, parce que les disciples ont bien dû apprendre leur leçon d'école du dimanche. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à l'école du dimanche que des enfants peuvent être punis pour la faute de leur père. Alors, je ne sais pas si on apprend ça vraiment à l'école du dimanche, mais disons que connaissant leur Torah, connaissant leur Ancien Testament, on apprend dans les livres de l'Exode au chapitre 20, au verset 5, ou en Deutéronome 5, que, eh bien, on peut être puni à cause de la faute de nos pères. Et être béni, ça on l'oublie, jusqu'à la millième génération. Et c'est intéressant parce que, alors que Jésus voit cet aveugle, les disciples ne lui demandent pas « Au fait, Jésus, est-ce que tu sais depuis quand cet homme est aveugle ?» Ou bien « Jésus, cet homme, comment fait-il pour se déplacer dans Jérusalem ? Il n'y a pas des accès handicapés, il n'y a rien, c'est compliqué pour se déplacer à Jérusalem. Comment est-ce que cet homme fait ?» Ou mieux « Jésus, est-ce que toi tu connais la peine de cet homme ?» Ou encore « Jésus, peux-tu le guérir ?» Non, la réaction des disciples est tout autre. Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Cette question est dramatique, quelque part. Alors, on aurait deux manières de réagir face à cela. La première, c'est de trouver que cette réaction est tout à fait inappropriée, inappropos. Et c'est vrai, elle l'est. Cette réaction est tout à fait inappropos. Comment rester insensible face à la douleur de cet homme, qui probablement mendiait tous les jours dans l'entrée du temple en tant qu'aveugle ? Comment passer à côté de cet aveugle sans même penser demander à Jésus de le guérir ? Ce sont les disciples, ils ont Jésus à leur côté. Non, ils auraient dû s'exclamer « Jésus, guéris cet homme, guéris-le !» La deuxième réaction, c'est essayer de prendre un peu de distance par rapport au récit, et d'essayer de s'identifier dans la réaction des disciples. Au fond, je crois que nous ne sommes pas vraiment meilleurs qu'eux. Quel regard portons-nous sur le monde qui nous entoure ? On revient un petit peu au message porté il y a quelques semaines, porter un regard de bienveillance sur le monde qui nous entoure. Quel regard portons-nous sur ceux qui souffrent ? Sur la souffrance elle-même ? Est-ce un regard bienveillant, rempli d'amour, ou un regard, quelque part, qui cherche à comprendre les causes du mal, un regard qui essaye de scruter toutes les choses ? Cherchons-nous absolument à connaître la cause du mal, plutôt que de demander à Jésus de l'éradiquer ? Tout simplement, Jésus, guéris-le, plutôt que pourquoi est-ce lui ou ses parents qui ont fauté ? Et c'est vrai que nous pouvons parfois investir beaucoup de temps, beaucoup de temps et d'énergie à comprendre pourquoi les choses vont ainsi. Pourquoi le mal est là ? Pourquoi la maladie est là ? Pourquoi est-ce qu'un enfant naît trisomique aujourd'hui? Pourquoi la mort? Pourquoi le diable? Pourquoi le mal? Alors, on peut avoir quelques réponses à ces questions, mais il y a aussi, il faut la mettre, un certain mystère. Pourquoi le mal? La question auquel aucun des théologiens ne se défierait de répondre, pourquoi le mal? Pourquoi est-ce que Dieu l'a permis? Un théologien dit, c'est un mystère opaque. Pourquoi le mal? C'est un mystère opaque. On ne peut absolument pas répondre à cette question. Alors, plutôt que de faire fausse route, d'essayer de se noie dans des raisonnements, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, Jésus vient leur indiquer le but de tout cela. Je trouve que c'est très intéressant. Dans notre vie de foi, Jésus vient indiquer le but et c'est à nous de le découvrir. Jésus répond, non, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus commence par déplacer l'accent quelque part. Ce n'est pas parce que, mais pour que. Hein, les enfants, tout le temps, pourquoi? 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 Tout à l'heure, hein, pourquoi je dois distribuer les flyers sur les chaises? Ben parce que, voilà. Pourquoi? On est plein de pourquoi. Ce n'est pas parce que, dit Jésus, mais pour que, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il livre le but, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, on l'a lu. La nuit vient où personne ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Alors, vous avez vu, hein, il est question de « il faut que je fasse tandis qu'il est jour ». Alors j'ai choisi cette traduction parce que c'est souvent la traduction qu'on a dans nos Bibles, hein, « il faut que je fasse ». Cependant, lorsqu'on regarde un peu le texte de près, il faudrait plutôt traduire « tandis qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé ». Alors c'est intéressant. Il n'est pas question que Jésus fasse seul les œuvres de celui qui l'a envoyé, mais le texte dit « tandis qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé ». J'ai vérifié, c'est bien le « nous » qui est employé ici. Alors on a un schéma récurrent ici, dans ce passage, qu'on retrouve ailleurs dans les évangiles, et notamment dans les récits de guérison. Maintenant, je vais vous donner ce schéma, relisez les évangiles avec ce calque, avec cette perspective. Vous allez voir que vous allez découvrir ce schéma très souvent. Tout d'abord, Jésus montre aux disciples qu'ils font fausse route. Et bien souvent, dans les évangiles, les disciples font fausse route, ils se trompent. Très souvent. Un petit peu comme nous, quelque part. Ensuite, Jésus les enseigne. Il leur montre qu'ils se trompent, et ensuite il les enseigne. Voilà ce qu'il en est, quelque part. Un petit peu comme nous. Enfin, il les qualifie pour la mission qui est devant eux. C'est-à-dire qu'il ne les laisse pas, voilà, vous avez fait faux et tant pis. Non, non. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Vous avez fait fausse route, mais il faut que nous accomplissions ensemble les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et enfin, eh bien, il leur montre comment ça se passe, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement des explications et découvrir le but, mais c'est un lieu où il se passe des miracles, le royaume de Dieu. Il leur montre l'exemple en effectuant un miracle. Dernière étape, quatrième et dernière étape, Jésus leur montre l'exemple et leur dit, ben voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Voilà un miracle. Alors on ne peut pas penser que ce cadre-là est limité aux disciples. Nous sommes aussi disciples du Christ, et il en est de même bien souvent pour nous, et de la mission de l'Église en général. Jésus d'ailleurs dira, sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde ». Alors que Jésus se présente ici comme étant la lumière du monde, en Matthieu, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et récemment, pas plus tard que la semaine dernière, on a des témoignages dans cette assemblée de gens qui d'un seul coup se sentent une âme d'évangéliste, un petit peu, alors qu'on ne l'avait pas, et moi je suis le dernier des évangélistes. Mais on a les témoignages, de ce coup, on se rend compte que tout simplement dire ce qu'on fait les dimanches matins au culte fait de nous des lumières. Dire que, voilà, on en parlait le week-end dernier, il ne suffit pas de « je suis pris dimanche matin ». Je suis vraiment désolé, hein, j'aurais bien été avec toi faire du vélo, mais je suis pris. Non, j'aurais bien été faire du vélo, mais en fait, je vais au culte dimanche parce que je suis chrétien. J'ai fait ça hier et je vous promets que ça... C'est incroyable les discussions qui émanent de ça, tout simplement. Pas à nous d'aller bien plus loin, les gens sont curieux, les gens viennent à nous, viennent à la foi. Alors, Jésus va leur montrer aux disciples, les gars, je vais vous montrer comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Vivre le moyen. Et c'est la troisième et la dernière étape. Dans les évangiles, Jésus montre l'exemple et il s'en passe. Jésus, on dit, il est un parfait thaumaturge, il fait plein de miracles dans le cadre de son ministère. Il y en a des miracles, il guérit. Lui qui n'a pas été touché par le péché est le seul, quelque part, à bien voir cet aveugle-né. Lui qui ne voit pas, lui qui est dans les ténèbres en lien avec sa cécité, eh bien Jésus le voit, lui, et c'est le seul à réellement bien le voir. Lui, la lumière du monde venue dans les ténèbres. Sa compréhension nous dépasse largement. Mais comme je disais, plutôt que de laisser les disciples dans leur mauvaise compréhension, eh bien, il les rend participants de l'œuvre qu'il va faire ensuite, du miracle. C'est les œuvres que nous accomplissons. Et alors, il fait grâce. C'est parti, il agit et il est à l'œuvre. Et c'est ainsi que ça va se passer. Il rend les disciples participants, je le disais. Attention, c'est lui qui opère le miracle, pas les disciples. Là aussi, quand on se met en œuvre, hein, quand on commence à agir, des fois on a l'impression que c'est nous qui sommes un peu aux commandes et qu'on pilote un petit peu les choses et puis on en oublie que c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui fait le miracle, pas les disciples. Et là, on rentre dans le geste, un geste complètement énigmatique qui m'a creusé la tête ces trois derniers mois. Le verset 6 nous dit « Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive » Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu des guérisons dans les évangiles. Généralement, c'est un peu plus simple que ça. C'est quasiment instantané, ou presque. Et là, il y a toute une sorte de rituel autour de la guérison. Et je me suis demandé, mais pourquoi un tel rituel? Pourquoi faire de la boue en crachant avec de la salive? En prenant de la poussière, c'est pas très esthétique déjà, et puis je comprends vraiment pas pourquoi Jésus a besoin de ça, fait cela à ce moment-là. Alors, je vais vous le dire d'emblée, comme ça si je vous perds par la suite, vous aurez au moins la réponse. C'est que par la formation de la boue, en faisant de la boue et en l'appliquant sur les yeux de l'aveugle, Jésus démontre que l'aveugle est tout simplement innocent par ce rituel. Ce n'est pas parce que lui ou ses parents ont péché qu'il est aveugle, mais par ce rituel, il va montrer qu'il est innocent. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des miracles de guérison dans les évangiles, mais le récit de Jean 9 est un des trois récits de guérison où Jésus guérit avec l'aide de sa salive. En Marc 8:23, Jésus applique sa salive directement sur les yeux de l'aveugle, et il est guéri. Et en Marc 7:33, encore un rituel un petit peu énigmatique, Jésus met les doigts dans les oreilles, crache et touche la langue d'un malade. Bon, je ne vais pas m'attarder sur celui-là, il y a déjà bien à faire avec celui de Jean 9. Et c'est là, quelque part, que la nouveauté intervient, et il me semble avoir découvert un lien qui avait été ignoré jusque-là. C'est que dans l'Ancien Testament, il existe un passage où il y a l'association d'un liquide avec de la poussière. Dans le passage, alors c'est un passage peu connu, de la femme soupçonnée d'adultère, en Nombre 5. Vous vous rappelez de ce passage? Nombre 5, oui, bien sûr. Nombre 5, 11:31. C'est pas, on lit pas ça avant de s'endormir le soir, généralement. Nombre 5, 11:31. Alors ce passage est lui aussi très énigmatique. Mais le contexte général est le suivant, je vous le dis rapidement. Si un homme soupçonne sa femme d'être adultère, eh bien il a un moyen de savoir si elle a réellement commis l'adultère ou non. Il la soupçonne, le mari soupçonne la femme d'avoir été adultère, et il ne l'a pas pris en flagrant délit, donc il n'a pas de preuve. Alors il peut emmener sa femme devant le prêtre. Bon, étonnant. faudrait pas faire ça aujourd'hui, quoi. Disons, ça serait un petit peu... ça serait original, disons. Et je lis Nombre 5, versets 16 à 17. Le prêtre la présentera, debout, devant le Seigneur. Le prêtre prendra de l'eau sacrée, nous dit le texte, dans un récipient de terre. Le prêtre prendra de la poussière sur le sol de la demeure, c'est-à-dire le tabernacle, et la mettra dans l'eau. Prend de la poussière et la met dans l'eau. Alors s'ensuit ensuite tout un rituel assez complexe et marqué de plusieurs étapes afin de déterminer si la femme est vraiment adultère ou non. L'étape ultime consiste à ce que la femme ingurgite, elle boit, le mélange d'eau et de poussière. Je lis Nombre 5, versets 27 et 28. Quand le prêtre lui aura fait boire l'eau, si elle s'est rendue impure, et si elle a été infidèle à son mari, l'eau qui apporte la malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, ses cuisses dépériront, et cette femme sera un sujet de malédiction au sein de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera innocentée, et elle aura une descendance. Alors, outre le mélange d'eau et de poussière, il me semble que dans les deux passages, nous avons un rituel pour une personne soupçonnée d'avoir fauté. Dans le texte de l'Ancien Testament, c'est parce que le mari soupçonne sa femme de s'être souillée, de s'être rendue en impure par un adultère, et qu'il n'a pas de preuve pour l'incriminer, qu'il fait appel au prêtre. En Jean, le scénario est assez similaire. C'est parce que les disciples soupçonnent l'aveugle ou ses parents d'avoir péché, qu'ils posent la question à Jésus. Dans ce cas, l'aveugle, Jésus qui fait office de prêtre ici, quelque part, dans le cas de l'aveugle, une faute expliquerait son aveuglement, sa cécité depuis sa naissance. Mais comme le montre la suite du texte, l'aveugle soupçonné d'avoir fauté est tout simplement innocent. Donc, par cet alliage, par cette création de boue, eh bien, on se rend compte d'un seul coup que il y a tout en fait un rituel qui était probablement connu des Israélites de l'époque, et Jésus le remploie en le modifiant quelque peu pour montrer que, en appliquant la boue, eh bien, cet homme est innocent. Reste à interpréter l'envoi au bassin de Siloé. Alors là, les spécialistes de la Bible avaient très vite vu une allusion à un texte de l'Ancien Testament, alors que pour le premier rituel, pas. Et j'ai essayé de démontrer que dans le premier rituel, il y avait aussi une allusion à l'Ancien Testament. Le bassin de Siloé, eh bien, c'était un bain rituel au sud de Jérusalem. Un bain où les gens avaient l'habitude de se rendre pour être purifiés. Et c'est tout à fait étonnant, hein. Si vous voulez, on est probablement en Jean 7, 8, on est aux abords du temple. Jésus voit cet aveugle né probablement en train de mendier aux abords du temple. Encore une fois, on est aux abords du temple. Rappelez-vous, dans le livre des Nombres, c'est la poussière de la demeure qui est employée, du tabernacle. Donc là encore, il y a des liens. Le temple, le tabernacle. Revenons à nos moutons, il ne faut pas que je vous perde, c'est mon objectif. Jésus envoie cet homme au bassin de Siloé. C'est en fait, à l'époque, à l'autre, c'est tout au sud de Jérusalem, se purifier. Imaginez-vous, il applique la boue et il l'envoie au bassin de Siloé, alors qu'il aurait pu immédiatement le guérir. Pourquoi l'envoyer au bassin de Siloé? Eh bien, les spécialistes de la Bible ont vu qu'il y avait là un lien avec l'Ancien Testament. L'ordre de Jésus fait penser à celui qu'avait donné le prophète Élie à Naaman le Syrien, d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, afin d'être purifié. Alors, d'un seul coup, les deux rituels s'expliquent. Par la formation de la boue, rappelant le cérémoniel de Nombre 5, je l'ai dit, et l'envoi au bassin de Siloé, rappelant la purification de 2 rois 5, Jésus montre à ses disciples que l'homme est à la fois innocent sur le plan moral, il n'a rien commis, lui ou ses parents n'ont rien commis pour que lui soit aveugle depuis sa naissance, et il est à la fois pur sur le plan du rituel. Il est pur, il a été envoyé au bassin de Siloé, il n'y a aucun problème. J'ai appliqué la boue, vous voyez qu'il n'y a pas de problème de mensonge, il n'y a rien du tout pour qu'il soit né aveugle aujourd'hui. Je l'envoie au bassin de Siloé, il va au bassin de Siloé, il se trempe dans le bassin de Siloé, et voilà que la guérison opère. Jésus montre par ces deux rituels que l'homme est innocent sur le plan moral et sur le plan du rituel. Alors là, on a un geste mystérieux, n'est-ce pas ? Un geste mystérieux que j'ai essayé un petit peu de... J'ai fait très rapidement, hein, de vous donner quelques pistes de réflexion pour les interpréter. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours la manière dont Dieu agit, dont Dieu opère. Des fois, c'est rapide. On prie pour la conversion de nos familles. Des fois, c'est rapide. Des fois, ça prend du temps. Des fois, on prie pour une guérison. Des fois, c'est rapide. Des fois, peut-être qu'on ne sera guéri que dans la Nouvelle Jérusalem. J'en sais rien. Parce qu'on ne peut pas expliquer toutes les causes. Mais ce qui est sûr, et ce que je peux vous dire, c'est que Jésus veut encore agir aujourd'hui. Et ça, c'est certain. Bien souvent, on s'arrête sur la recherche de la cause de nos infirmités, au sens large du terme, de nos problèmes. Alors que Jésus, lui, veut nous présente le but. Il nous présente le but dans sa parole. Il nous le présente. Et parfois, on s'arrête là. Mais Jésus nous donne les moyens de ce changement. Il veut nous rendre participants du miracle qu'il opère. Comme disait un président, le changement, c'est maintenant. De plus, Jésus veut enlever la culpabilité qui repose sur nous et sur le monde entier. Il l'a fait une fois pour toutes, on l'a dit, à la croix, par un geste, là encore, hein, incompréhensible. Dieu qui envoie son Fils unique mourir de la pire façon qui soit dans l'Empire romain, pour que nous ayons la vie, une vie éternelle, un sacrifice une fois pour toutes, qui vient couvrir toutes nos fautes. Et c'est ce que nous devons annoncer quelque part au monde. Et c'est là que j'aimerais vous inviter à... On connaît peut-être, on a été dans la recherche de causes, on a des nouveaux bâtiments, on essaye de mettre en place des moyens, on a découvert le but, mais il faut maintenant que le miracle s'opère. Tout est à faire. Et quelque part, nous sommes appelés à annoncer le plus grand des miracles que Jésus a opéré, c'est qu'il est capable de rendre innocents de nous rendre innocents de notre péché. Nous, nous l'avons commis, le péché, en revanche, par rapport à l'aveugle-né. Mais pour autant, Jésus a été plus loin à son sacrifice que ce rituel-là. Il a permis, nous permet d'être déclarés justes alors que nous avons commis l'injuste. Le chapitre se conclut ainsi, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, mais pour que ceux qui ne voient point voient, amen, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Telle est la conclusion. Alors en ce dimanche, le Seigneur nous invite à aller plus loin, à faire un pas de plus que la simple recherche de cause. Comprendre le pourquoi du comment, ça suffit. Notre compréhension est de toute façon bien limitée par le péché, par celui qui nous entache. Non, lui, la lumière du monde, nous invite à redécouvrir le but fixé, que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour cela, il nous invite à le faire avec lui. Et il dit « nous » en nous rendant capables. C'est bien à nous d'accomplir les œuvres du Père. Enfin, Jésus guérit. Oui, il agit. Parfois de manière surprenante. Parfois pas de la manière dont nous nous y attendons. Mais nous devons le suivre pour cela, pour voir le miracle. Si les disciples n'étaient pas actifs, n'avaient pas suivi Jésus tout au long de son ministère terrestre, ils n'auraient pas vu les miracles qu'a fait Jésus. Cela signifie savoir dépasser la simple recherche de la cause, de découvrir le but et de vivre le moyen. Tout est devant nous. Nous avons une belle frate rénovée, des beaux sièges. Tout est devant nous. On a des flyers maintenant aussi qui sont sur nos chaises. Eh bien, nous qui suivons Jésus, faisons-lui confiance. Donnons un flyer plus loin. Témoignons de ce que nous vivons, lui, la lumière du monde, est capable de transformer les vies, de les emmener des ténèbres à la lumière. Lui en est capable si nous nous mettons à sa suite. Amen.